Compañeros y compañeras, la revolución les ofrece trabajo, sacrificio, lucha. La revolución, el revolucionario, no ofrece privilegio.
Marita Lorenz, on l'a surnommée la Matahari des Caraïbes, la première dame de Cuba. Fidel Castro, lui, l'appelait ma petite allemande Alemanita.
Je suis sa meurtrière préférée, c'est ce qu'il dit.
That's what he said. He said, I'm your favorite assassin.
Tu es ma meurtrière préférée.
Le New York Times lui donnera un autre surnom, moins glamour, la sainte patronne des complotistes. C'est vrai qu'il est difficile de faire la part du vrai et du fantasmé dans les nombreux récits qu'elle fera de sa folle vie d'espionne, semée d'opérations secrètes, de trafic d'armes, d'empoisonnement et d'aventures amoureuses avec des dictateurs. Dans le tourbillon, au moins une chose est certaine. Marita Lorenz a travaillé pour la CIA, notamment lorsqu'en 1961, elle n'a que 20 ans, elle est envoyée à Cuba pour assassiner Fidel Castro. Le guérillero qui a pris le pouvoir à La Havane 2 ans plus tôt.
La Havane est en fête. La population a acclamé l'homme à la barbe légendaire. Fidel Castro, irréductible ennemi du général Batista. L'épopée de l'avocat de 32 ans est donc arrivée à son terme. Objet des ovations folles de La Havane, Fidel Castro est aujourd'hui le maître de Cuba.
Le 8 janvier 1959, Fidel Castro et ses combattants entrent triomphalement dans La Havane. Les reportages réalisés ce jour-là par la presse contribueront à donner une popularité internationale à la révolution cubaine. Même les États-Unis, qui ont des intérêts sur l'île, ne savent pas trop quoi penser encore de ce Fidel Castro. Est-il ou non communiste ? Le gouvernement américain, tout en restant prudent, voit a priori d'un bon œil l'arrivée au pouvoir à La Havane de ce grand gaillard de 32 ans, fils de bonne famille, qui a mis fin à la dictature décidément embarrassante de Fulgencio Batista. Fidel Castro a beaucoup de charme. Et en janvier 1959, personne à Cuba ou à l'étranger ne résiste à son sourire ravageur et à sa jeunesse. Même les hommes. Comme ce compagnon d'armes interviewé le 2 janvier par la radio française.
C'est un homme extraordinaire, c'est un personnage de légende. Et M. Castro a manifesté toujours qu'il ne veut pas occuper les positions publiques, que tout ce qu'il veut, c'est de remettre au peuple cubain ses libertés et de rentrer tout de suite après faire sa vie normale de citoyen. Ça devient une espèce de général de Gaulle de chez nous.
Fidel Castro, un grand démocrate, un de Gaulle cubain. C'est vrai, dès les premiers jours, un président et un vice-président sont nommés, un nouveau gouvernement est mis en place, immédiatement reconnu par Washington. C'est dans l'ambiance euphorique de ce début de révolution que Marita Lorenz va débarquer à Cuba et devenir bientôt l'héroïne d'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle. Une héroïne souvent malgré elle, car la jeune espionne sera victime de manipulations diverses de la part des services secrets américains, cubains et peut-être soviétiques. Mais pour l'instant, le thriller a encore un parfum sucré de romance. Le 27 février 1959. Une belle journée d'été tropicale, chaude et ensoleillée. Le Berlin, un paquebot allemand chargé de touristes, vient d'entrer dans le port de La Havane. Mais en ce début d'après-midi, il fait trop chaud pour débarquer et le commandant fait la sieste. Il ne voit donc pas deux vedettes qui foncent vers le paquebot et une dizaine d'hommes armés qui montent à bord. Mais la fille du commandant, elle, ne dort pas. Cette ravissante jeune Allemande, qui n'a pas la langue dans sa poche, ne se gêne pas pour siffler les soldats et leur demander ce qu'ils font là.
I am Dr. Castro.
Je suis Monsieur Castro.
Fidel.
I am Je Cuba. Suis Cuba. Où est le commandant?
Que lui voulez-vous?
Nous voulons visiter le bateau.
Pourquoi?
Pourquoi?
Because, miss,
parce que, mademoiselle, Monsieur Castro n'est jamais monté sur un bateau aussi grand.
Vous n'avez pas besoin de porter des armes.
Je veux parler au commandant.
Je m'appelle Marita Lorenz et je représente le commandant de ce navire. Et si vous ne déposez pas vos armes, vous ne serez pas admis à bord.
La petite Allemande, tu veux que je sois tout nu?
Marita Lorenz, 18 ans, Allemande par son père et américaine par sa mère, est une jeune fille pleine de vie et apparemment insouciante. Mais son histoire personnelle est loin d'être simple. Marita est née en Allemagne en août 1939, deux semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Son père, commandant de sous-marin, part à la guerre, pendant que sa mère, ex-danseuse de Broadway, se débrouille comme elle peut avec ses quatre enfants. En 1944, alors que le père est fait prisonnier, la mère, suspectée par les nazis d'espionnage en faveur des Alliés, est arrêtée et internée au camp de concentration de Bergen-Belsen, avec sa fille cadette, Marita, qui n'a que 5 ans. Par miracle, la mère et la fille sont toutes les deux vivantes quand en mai 1945, le camp est libéré par les Britanniques.
C'est bien la fin d'une horreur sans nom pour les détenus du camp de Belsen, où 60 000 hommes, femmes et enfants ont vu arriver les troupes anglaises. Privés de nourriture, privés d'eau, privés de soins, ils étaient destinés à succomber dans ce camp de la mort lente pour la plus grande gloire du peuple des seigneurs, car ce peuple ne sait régner que sur des cadavres.
À ce traumatisme en succédera un autre. À 7 ans, la petite fille est violée par un sergent américain. Par cette enfance doublement volée, Marita restera marquée à vie. Une vie où, comme par hasard, elle croisera souvent la route d'hommes armés malveillants. En 1946, ses parents divorcent et Marita part vivre aux États-Unis avec sa mère. Mais à l'adolescence, elle n'a qu'une envie, fuir, respirer, parcourir le monde. Ce qu'elle va faire avec son père, qui commande maintenant des paquebots de croisière. Ce 27 février 1959, dans le port de la Havane, Marita Lorenz vient donc d'entrer dans la vie de Fidel Castro et inversement. Pendant plusieurs heures, le chef de la révolution cubaine et ses compagnons en treillis, comme de grands gosses, visitent le navire, s'installent au restaurant de première classe, leurs bottes sur les tables. Les touristes, émoustillés par cette visite exotique, leur font signer des autographes. Une photo immortalise la scène où, assis à côté l'un de l'autre, Marita et Fidel se sourient, lui le cigare à la bouche. Avant de quitter le navire, le bouillant Fidel embrasse fougueusement la jeune fille. Un baiser qu'elle n'oubliera pas, comme elle le dira elle-même au micro de Paul Ajac pour France Inter en 2001.
Il avait 33 ans, il mesurait 1m85. Ses yeux dansaient, ils étaient étincelants. Il avait un sourire adorable, un peu timide, et il me regardait fixement. Ça me mettait mal à l'aise. Mais je me fichais de savoir s'il était épicier ou autre. Je l'aurais quand même aimé. Je n'avais aucun avis sur la politique. J'avais 18 ans, j'étais très naïve. Quelque chose s'est passé en une fraction de seconde. Et dès qu'il a pris ma main, j'étais foutue.
Et quelques jours plus tard, alors que Marita a dû rentrer à New York, elle reçoit un coup de fil inespéré. Fidel Castro en personne. Il la supplie de revenir à Cuba et, aux grands hommes les grands moyens, lui apprend qu'il a affrété pour elle un avion de la Cubana Airlines. La jeune fille romantique n'hésite pas un instant. Une drôle d'aventure commence. À peine débarquée à Cuba, Marita est conduite au 24e étage de l'hôtel Hilton, le bâtiment le plus élevé et le plus luxueux de la Havane, que le leader Maximo vient de réquisitionner et de rebaptiser le Habana Libre. L'hôtel n'avait été inauguré qu'un an plus tôt. Pendant 7 mois, Marita Lorenz file le parfait amour avec le chef cubain. Elle l'accompagne parfois en tournée dans l'île, vêtue fièrement d'un uniforme. Mais le plus souvent, elle l'attend à l'hôtel. Amoureuse et très naïve, elle ne voit pas la tournure de plus en plus dictatoriale que prend le pouvoir de Castro sur Cuba. Lui, qui se disait démocrate et désintéressé, cumule désormais tous les pouvoirs, collabore en sous-main avec le KGB soviétique et élimine tous ses opposants, de manière discrète ou bien dans des procès à grand spectacle où l'on condamne à mort à tour de bras et sans preuve. Les images effrayantes de ces procès cubains font le tour du monde. Mais Fidel Castro est très fort pour donner le change. On le voit par exemple quelques jours plus tard à la télévision américaine répondre gentiment à une interview depuis sa suite d'hôtel. L'apparition à côté de lui de son fils, Fidelito, avec un chiot dans les bras, contribue à donner au dictateur l'image rassurante d'un bon père de famille. En avril 1959, Fidel Castro poursuit son opération de charme en se rendant à Washington, invité officiellement par la presse américaine. En réalité, c'est la CIA qui a monté l'invitation, histoire de sonder le jeune leader cubain. C'est lors de ce voyage que Marita Lorenz découvre qu'elle est enceinte. Contre toute attente, Fidel est fou de joie. Mais les services secrets cubains le mettent en garde. Cette jeune américaine, dont la mère travaille pour la CIA, n'est-elle pas elle-même une espionne? Et ne risque-t-elle pas un jour de repartir aux États-Unis avec l'enfant de Castro? Un soir, à son retour à Cuba, dans le hall de l'hôtel, alors que Fidel et son frère Raoul s'amusent aux machines à sous, Marita est abordée par un Américain qui a appris, on ne sait comment, qu'elle est enceinte de Castro.
Je sais qui tu es. Si un jour tu en as besoin, je pourrais t'aider.
Il dit s'appeler Frank Fiorini. C'est un Américain, mais il travaille pour les castristes. Il leur fournit des armes et s'occupe de gérer les casinos de l'île. Mais Castro se méfie de lui.
Ne lui parle pas et garde tes distances,
ordonne-t-il à Marita. Mais elle n'obéit pas et Fiorini réussit à la convaincre de lui procurer les documents ou brouillons que Castro jette à la poubelle. Imprudente et très influençable, Marita Lorenz vient de mettre le pied dans un engrenage dont elle ne réussira jamais vraiment à sortir. Fiorini, de son vrai nom Frank Sturgis, est en réalité un fervent anticommuniste qui, en 1961, avec la CIA, participera à la tentative d'invasion de Cuba à la baie des Cochons. On le retrouvera bien plus tard dans le scandale du Watergate. Il sera l'un des pseudo-plombiers qui, en 1972, seront surpris à poser des micros au siège du Parti démocrate à Washington. Le voici, interviewé en 1975 sur son passé à Cuba.
J'ai été mêlé à plusieurs tentatives, plusieurs complots, conspirations, appelez ça comme vous voulez, pour tuer Fidel Castro. J'étais très proche de Fidel, je l'avais rencontré auparavant ici à Miami, avant son départ pour Cuba, et je l'avais rejoint dans les montagnes où j'ai servi d'agent double. J'ai effectué plusieurs opérations à ses côtés. J'ai gagné sa confiance et celle de ses proches, son frère Raoul, Che Guevara, Camille Cienfuegos. Quand la révolution a pris fin, j'ai obtenu un poste important dans la hiérarchie militaire pour rester proche de Fidel.
Marita Lorenz est enceinte de 8 mois quand le 15 octobre 1959 survient un drame qui va sceller son destin. Alors qu'elle boit un verre de lait, elle s'évanouit et quand elle se réveille, elle baigne dans son sang et son enfant a disparu. Dans un état très grave, Marita est mise d'urgence dans un avion pour les États-Unis où elle sera hospitalisée. Que lui est-il arrivé? Une fausse couche? Marita Lorenz, elle, affirmera qu'elle a été droguée et qu'on lui a fait subir un accouchement forcé pour lui enlever son enfant. Un garçon qui, d'après ses dires, aurait survécu. Si Marita dit vrai, la terrifiante opération a-t-elle été montée par les Cubains, par les Soviétiques ou par la CIA? Et si les Cubains en sont les responsables, est-ce Fidel Castro lui-même qui l'a commandité?
Le Congrès et la presse des États-Unis font abondamment connaître qu'ils sont excédés des intempérances du langage anti-américain de la Havane et qu'ils souhaiteraient que le gouvernement cubain cessât d'accuser les États-Unis d'être responsable de tout ce qui ne fonctionne pas harmonieusement à Cuba ou ailleurs. Ici Georges Wolff à New York, à vous Paris.
En 1960, les Américains n'ont plus de doute sur la nature communiste du régime cubain. Fidel Castro, qui a nationalisé les terres et conclu un accord avec l'Union soviétique, est devenu pour les États-Unis l'ennemi à abattre, littéralement. Mais comment? Des années plus tard, Alain Dulles, le patron alors de la CIA, jurera dans une interview n'avoir jamais recouru à des pratiques illégales et immorales, contrairement aux soviétiques.
Vous pouvez nous en dire plus?
Eh bien, pour autant que je sache, nous ne pratiquons pas les assassinats, les enlèvements et les choses de ce genre. Pour autant que je sache, nous ne l'avons jamais fait. Pour autant que nous sachions, eux le font, et ils le font de manière importante.
Pour tuer Castro, la CIA a alors l'idée machiavélique de faire appel à la mafia. Un pacte qui doit bien sûr rester secret. Depuis que la révolution castriste a mis un coup d'arrêt aux gains juteux des casinos et des bordels de la Havane, la mafia a en effet toutes les raisons de vouloir se venger du chef cubain. Robert Maheu, un agent de la CIA, entre en contact avec les parrains Johnny Roselli, Sam Giancana et Santo Traficante Jr., les dignes héritiers d'Al Capone. De véritables gangsters sans foi ni loi. Mais comme le dit avec pragmatisme Robert Maheu,
il faut que vous compreniez, l'espionnage, c'est un sale boulot, un très sale boulot. Mais c'était une manière de sauver des vies américaines. Il fallait donc agir ainsi.
La première rencontre, en septembre 1960, a lieu dans l'arrière-salle d'un lieu mythique, le Boom Boom Room, la boîte de nuit de l'hôtel Fontainebleau, le palace à la mode de Miami Beach, où se retrouvent les grandes fortunes et les stars de l'époque, comme Frank Sinatra, Judy Garland ou Elvis Presley. Une scène fameuse de Goldfinger sera tournée au Fontainebleau. James Bond, au bord de la piscine, vêtu d'un improbable combi-short en éponge bleu layette, il n'y a que Sean Connery pour rester sexy dans une tenue pareille. Pour tuer Castro, les mafieux suggèrent l'empoisonnement, beaucoup plus discret que les armes à feu. Les laboratoires de la CIA mettent alors au point un poison sans goût ni odeur. Dissimulé dans des capsules minuscules, il se dissout instantanément dans un liquide chaud ou froid. Mais il faut aussi trouver le point faible de Fidel Castro. Ne serait-il pas son goût immodéré des femmes? C'est comme ça que la CIA va s'intéresser de près à Marita Lorenz, cette jeune femme qui vient de rentrer de Cuba, traumatisée par la perte de son enfant. En rentrant aux États-Unis, Marita, qui n'a que 19 ans, quitte l'autorité de Fidel Castro pour une autre, non moins toxique, celle de sa mère. Alors que la jeune fille est très affaiblie et ébranlée par l'épreuve qu'elle vient de vivre, sa mère la met en relation avec le FBI et la CIA, qui, on s'en doute, sont très pressés de l'interroger sur Castro. Et comme par hasard, Marita retrouve Frank Sturgis, le mystérieux Américain qu'elle avait rencontré à la Havane. Ces hommes vont mettre dans la tête de la jeune fille l'idée, peut-être vraie, que c'est Castro qui a ordonné l'accouchement et qui a volé son enfant. Et en l'espace de quelques mois d'embrigadement anticommuniste et de pression maternelle, l'ex-compagne du leader Maximo va se muer en agent de la CIA, prête à se venger de son ex-amant. En 2001, Marita Lorenz gardera un souvenir amer de son retour aux États-Unis.
Quand je l'ai quitté, la CIA m'attendait. Ils ont tout fait pour me culpabiliser. Je ne suis pas née aux États-Unis, je suis née en Allemagne. Et ils m'ont dit que je devais gagner ma citoyenneté, que j'avais déshonoré ma famille parce que je m'étais sauvée.
And I had to go, you know, I was alone.
J'étais seule, complètement livrée à moi-même. Ce n'était pas difficile de me contrôler. Ma mère travaillait pour les services secrets militaires. Mon père était en mer, j'étais seule. Et ils étaient pour ainsi dire mes grands frères. Le problème, c'est qu'ils m'ont trafiqué le cerveau. J'ai découvert plus tard que cette opération avait pour nom Ultra. Ils ont testé des drogues sur moi. Ils m'ont transformé en agent secret pour que je retourne le voir et que je le tue.
En décembre 1960, en effet, Frank Sturgis donne l'ordre à Marita Lorenz de se rendre à La Havane et de tuer Castro. Après quelques séances de bourrage de crâne, « Tu seras une héroïne, Marita. Tu vas changer le cours de l'histoire. » Et la promesse aussi d'une prime de plusieurs milliers de dollars, la CIA confie à Marita deux capsules de poison. Une seule suffit à tuer en 30 secondes et met la jeune femme dans un avion pour Cuba. À l'aéroport de La Havane, Marita saute dans un taxi. Arrivée à l'hôtel Habana Libre, elle salue le personnel de l'accueil comme si elle l'avait quitté la veille, monte au 24e étage et retrouve la suite 2408 qui, un an plus tôt, avait abrité ses amours avec Castro et dont elle avait gardé la clé. Mais le chef cubain n'est pas là. En l'attendant, Marita, qui n'emmène pas large, constate que les capsules de poison qu'elle avait dissimulées dans un pot de crème de beauté ont fondu. Elle décide de les jeter dans les toilettes. Mais alors, que va-t-elle faire? Quand au bout de quelques heures, Fidel Castro apparaît enfin, il ne cache pas sa surprise de la voir, ni sa méfiance, comme elle le racontera plus tard dans un show télévisé.
Il m'a demandé, tu es venu pour tuer? Oui. Il était allongé sur le lit, il fumait un cigare. Il avait son pistolet 45 et me l'a passé. Il m'a dit, vas-y, j'ai pris le pistolet. Il m'a dit, tu ne peux pas me tuer, personne ne peut. Et il m'a dit, fais attention quand tu rentreras, c'est toi qu'ils vont tuer.
Marita demande à Castro s'il est responsable de l'accouchement forcé et ce qu'est devenu l'enfant. Il lui répond laconiquement que l'enfant est vivant, que c'est un garçon et qu'il s'appelle Andrés. Le leader Maximo, lui, vient d'échapper à la mort, dans une scène digne d'un film de série B. Tout au long de sa vie, celui qui mourra de vieillesse en 2016 à l'âge de 90 ans fera l'objet de multiples projets d'assassinat. Comme on s'en rendra compte en 2007.
La CIA ne rêvait que d'une chose, supprimer le dirigeant cubain communiste. Et pour atteindre cet objectif, tous les moyens étaient bons. Projet de mollusques explosifs, cigares piégés, bombes sous une tribune, les services secrets américains n'étaient pas à court d'imagination. Selon l'ex-chef des services de renseignement cubain, près de 640 tentatives d'assassinat ont été organisées contre le leader cubain.
Fidel Castro semble invincible. Un jour, à un journaliste qui lui demande s'il porte un gilet pare-balles, le chef cubain répondra en soulevant sa chemise sur son torse velu.
Je porte un gilet moral.
Marita Lorenz quitte l'hôtel et reprend l'avion pour Miami, terrifiée à l'idée de retrouver Frank Sturgis et la CIA, qui d'ailleurs sont déjà au courant qu'elle a failli à sa mission, puisqu'ils ont entendu Castro, bien vivant, parler à la radio.
Compañeros! Y compañeras, la révolution les ofrece.
L'accueil aux États-Unis est à la hauteur des craintes de la jeune fille.
Maintenant, à cause de toi, nous allons devoir partir en guerre.
Uniquement à cause de Marita Lorenz, sûrement pas. En mars 1960, Alan Dulles de la CIA a réussi à convaincre le président Eisenhower de passer à la vitesse supérieure et de lancer une opération d'envergure. L'invasion de Cuba en vue d'installer un gouvernement allié à La Havane.
mais l'implication américaine doit rester secrète. L'idée est de faire croire à un coup mené par des anticastristes cubains. Sous le nom de code Opération 40, la CIA prend en charge l'entraînement militaire des combattants dans des camps basés au Guatemala ou en Floride, là où se concentrent la plupart des exilés cubains.
Dans l'île de Key West, en Floride, ce sont des instructeurs américains qui entraînent les commandos anticastristes. En voici un.
Qui vous fournit les armes? La vente des armes est libre dans l'état de Floride. It's possible to buy guns in Florida freely, war guns.
Well, they're not. I wouldn't say you call them war guns or.
Quand vous avez de l'argent, vous pouvez trouver des armes sur le marché. Et les Cubains nous en donnent.
Qui vous fournit l'argent pour cet entraînement?
Nous en procurons nous-mêmes et puis on en trouve. Et les Cubains en donnent.
La CIA ne pardonnera jamais à Marita Lorenz son échec, mais il continue à l'employer. Elle sait beaucoup de choses et elle peut encore être utile. De son côté, Marita, qui n'a pas fait d'études, ne sait pas ce qu'elle pourrait faire d'autre. Et elle semble prise dans un engrenage qui la dépasse.
C'est facile d'entrer à la CIA, mais on n'en ressort jamais. Ou alors dans un cercueil.
Elle suit un entraînement intensif dans les Everglades, cette région du sud de la Floride, réputée pour ses marais et ses alligators. Quand la jeune femme montre des signes de fatigue, les hommes du commando lui disent avec finesse
« T'as survécu à Bergen-Belsen. Tu survivras ici aussi. »
Elle apprend à manier les armes et à piloter des bateaux. C'est ainsi qu'elle va sillonner les Caraïbes pour transporter des armes vers le Guatemala et le Nicaragua, deux dictatures qui serviront de base de lancement à l'invasion de Cuba.
Est-ce que ça vous plaisait d'être espionne?
Sometimes I had fun, yes. I stole boats for the
CIA. Parfois, oui, je me suis bien amusée. J'ai volé des bateaux pour la CIA à des gens richissimes qui avaient des maisons somptueuses, des bateaux magnifiques qui donnaient des fêtes fastueuses, qui étaient très élégants. C'était à Palm Beach. J'y allais avec une torche électrique, je plongeais sous la jetée, je coupais les cordages, je prenais le bateau et je me marrais comme une folle.
But some those days were fun.
Cette époque était vraiment marrante. J'adorais faire des casses. C'était un vrai challenge. C'est terriblement agréable si on a besoin d'une voiture, de la réquisitionner au nom du gouvernement. Ça rend dingue d'être au-dessus des lois.
En novembre 1960, John Fitzgerald Kennedy succède à Dwight Eisenhower. Informé du projet de la CIA, le nouveau président des États-Unis, d'abord très sceptique sur les chances de l'opération, finit par donner son feu vert. Le 17 avril 1961, à l'aube, 1400 combattants anticastristes débarquent dans la baie des Cochons, au sud de Cuba. Mais le secret de l'opération a été éventé. Les forces cubaines sont sur le rivage pour accueillir les envahisseurs. L'opération est un fiasco pour les États-Unis et une victoire pour Castro.
L'invasion de Cuba par les anticastristes s'est soldée par un échec. Les Cubains exilés à Miami ont manifesté contre le régime de Fidel Castro. Par contre, à Moscou, a eu lieu une manifestation monstre appuyant les accusations de Castro contre les États-Unis.
Au début des années 60, Marita Lorenz devient une figure de la vie mondaine de Miami. Mais ses fréquentations, comme toujours, sont dangereuses. Ses nouveaux amis sont les parrains de la mafia, les mobsters qui trafiquent avec la CIA, Sam Giancana, Santo Traficante Jr. et surtout John Roselli, que Marita rencontre lors d'une soirée au Fontainebleau et qui devient son amant.
Un homme très gentil, très classe.
Très gentil, John Roselli. Ce bel homme, surnommé Handsome Johnny, impeccable dans ses costumes croisés, sera interrogé en 1975 par le Sénat. Mais la mafia ne pardonne jamais à ceux qui parlent à la justice.
John Rosselli, lors de son témoignage l'année dernière au Sénat, avait affirmé que lui et son vieil ami Sam Giancana avaient été recrutés par la CIA pour assassiner Fidel Castro. Samedi, des pêcheurs ont découvert dans la mer un bidon enveloppé de chaînes avec un corps à l'intérieur. La victime a ensuite été identifiée comme étant John Rosselli, une figure présumée de la pègre.
Marita Lorenz sert de messagère dans les trafics louches entre CIA, mafia et groupes anticastristes. Un jour de 1961, elle est chargée de récupérer 200 000 dollars à Miami Beach chez un certain général Diaz qui souhaite financer la lutte anticastriste. Le général Diaz est en réalité Marcos Pérez Jiménez, l'ancien dictateur qui a dirigé le Venezuela d'une main de fer avec le soutien de la CIA jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir en 1958. Il vit maintenant, avec femme et enfants, un exil doré en Floride. L'homme, petit, chauve, ventripotent, mais très riche, n'a pas exactement le charisme de Fidel Castro. Mais Marita, qui a décidément un faible pour les dictateurs, devient sa maîtresse, et lui, son protecteur. La jeune femme pense alors en avoir fini une bonne fois pour toutes avec la CIA. Elle est bientôt enceinte d'une fille, Monica, qui naît en mars 1962. Mais sa vie tranquille, en fait, ne dure pas. En 1963, pas de chance, le Venezuela obtient l'extradition de Marcos Pérez Jiménez. La jeune femme se retrouve alors seule avec son bébé. Sans ressources, elle ne voit qu'une solution, retrouver son vieux démon, Frank Sturgis. Mais depuis le désastre de la baie des cochons, et surtout depuis la crise des missiles en octobre 62, où le monde est passé à un cheveu d'une guerre nucléaire, la politique américaine à l'égard de Cuba a changé. Terminé les projets d'assassinat de Castro et les liaisons dangereuses avec la mafia. Priorité désormais à la diplomatie. Mais beaucoup d'exilés reprochent aux États-Unis de ne pas avoir tenu parole. Frank Sturgis et ses amis anticastristes éprouvent même une véritable haine pour Kennedy. 22 novembre 1963.
Le président John Kennedy arrive à Dallas et il est accueilli à sa descente d'avion par John Connally, le gouverneur du Texas. Vers midi, la voiture découverte du président quitte l'aérodrome et se dirige vers le centre de la ville. Sur la route, Don Jenkins, un reporter de la station KBOX de Dallas. Il est 12h30.
Passez-moi l'antenne. Il semble qu'il y ait eu une fusillade. Voici la voiture du président. Je vois le tailleur rouge de Mme Kennedy et un agent du service secret qui est penché au-dessus de la voiture, les bras en croix. Je n'arrive pas à voir qui a été touché. Mais apparemment, quelque chose s'est passé, quelque chose de très grave. Le cortège se dirige vers l'hôpital de Parkland.
La nouvelle est officielle. Maintenant, le président Kennedy est bien mort.
À Dallas, environ 46 minutes après l'assassinat du président Kennedy, un officier de police interpelle à un peu plus d'un kilomètre du lieu du crime un jeune homme à l'allure suspecte. Ce dernier sort un revolver, tire 4 fois, tue l'officier, puis se réfugie dans un cinéma où il est bientôt cerné et arrêté. Cet homme, c'est Lee Harvey Oswald, un ancien marine de 24 ans. Il est à peu près certain, d'après les expertises balistiques, que c'est Oswald et Oswald seul qui a tiré.
Les Américains sont en état de choc. La commission Warren, qui doit faire la lumière sur l'affaire, conclura l'année suivante à un acte isolé d'Oswald. Mais très vite, toutes sortes d'hypothèses voient le jour. N'est-ce pas la CIA, la mafia, l'extrême droite, Cuba, l'Union soviétique ou encore les anticastristes qui auraient commandité l'assassinat? Le débat sera relancé en 1975 quand une commission ordonnée par le gouvernement enquêtera sur les opérations illégales de la CIA dans les années 50-60. Un débat qui passionne les Américains. C'est à cette époque qu'ils découvrent l'existence de Marita Lorenz, qui jusqu'alors, en bonne espionne, était restée dans l'ombre. En 1975, Marita Lorenz déballe sa vie romanesque dans la presse. Son aventure avec Castro, sa tentative d'empoisonnement, ses relations troubles avec la CIA. Et surtout, Marita fait sensation quand elle affirme que le 18 novembre 1963, soit 4 jours avant l'assassinat de Kennedy, Frank Sturgis l'a appelée pour une mission. Marita raconte qu'elle laisse alors sa fille à la babysitter, rejoint Sturgis à Miami pour une réunion secrète avec des agents de la CIA, des anticastristes et un homme qu'elle ne connaît pas, Lee Harvey Oswald. Le groupe, Marita comprise, embarque dans 2 voitures, les coffres remplis d'armes en direction de Dallas, sans que Marita connaisse la nature de la mission. Mais arrivée à Dallas, elle décide de laisser tomber.
Je savais qu'ils avaient apporté des armes, ce qui était assez inhabituel. Et comme je ne sentais pas très bien ce qui était en train de se passer, j'ai dit à Frank Sturgis, moi je me tire. Et j'ai pris un vol Eastern Airlines de Dallas à Miami. J'ai récupéré mon bébé et j'ai pris un autre avion pour aller dans le New Jersey chez ma mère. Je voulais oublier cette guerre. J'étais mère à mon tour, j'avais une petite fille. Et c'est dans l'avion que j'ai entendu le pilote annoncer que l'atterrissage était retardé parce que Kennedy venait d'être assassiné. Je me suis dit, mon Dieu, mon groupe, je les ai laissés tomber à Dallas. À peine arrivé à la maison, j'ai passé un coup de fil chez Frank Sturgis, mais il n'était pas là. Et quand il a témoigné auprès de la commission d'enquête, il a dit qu'il était resté chez lui à regarder la télévision. Il a menti.
D'après Marita, le président des États-Unis aurait donc été assassiné dans le cadre d'un complot associant CIA et groupe anticastriste. En 1978, la commission chargée d'enquêter à nouveau sur la mort de Kennedy interrogera longuement Marita, mais finalement, elle ne prendra pas en compte ses déclarations, les jugeant trop floues, contradictoires et sans preuve. Marita Lawrence a-t-elle inventé toute cette histoire ? Mystère. En tout cas, dans les années 70, elle devient une vedette des plateaux télé.
Je vous présente Marita Lawrence. Elle a été la maîtresse de Fidel Castro. Et surtout, Marita affirme qu'elle a voyagé avec l'équipe de tueurs qui finiront par assassiner le président Kennedy. C'est la première interview de Marita sur une télé nationale depuis 10 ans.
Et elle reçoit une avance de $300 000 pour écrire ses mémoires. Une aubaine pour cette mère de famille qui a toujours été payée au noir par la CIA et qui peine à payer ses factures d'électricité. La vie d'espionne n'est pas toujours romantique. Sans toucher la moindre retraite, Marita va vivre le reste de sa vie chichement dans son petit appartement du Queens à New York, entre ses chiens et ses poissons rouges. En 1981, l'ex-espionne de la CIA retourne à Cuba, dit à son ex-amant qu'elle l'aime toujours, et elle rencontre pour la première fois son fils, Andrés. Mais l'a-t-elle vraiment rencontré ? Et ce jeune homme est-il vraiment son fils ? Difficile d'y voir clair dans les récits de la vieille dame. Mais sa fille, Monica, lui pardonne beaucoup de choses.
« Ma mère, enfant, a été dans un camp de concentration. »
À la toute fin de sa vie, Marita Lawrence retourne en Allemagne, où elle meurt en 2019, à l'âge de 80 ans. Fredonnant jusqu'au bout sa chanson préférée, « La moitié de mon cœur est à la Havane ». Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.